Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sporama sur VOA Afrique. Comme chaque lundi soir dans cette émission, les analyses, les commentaires, les résultats et évidemment vous, chers auditeurs, une émission interactive. Vous avez laissé vos numéros nombreux sur la page Facebook de VOA Afrique. Un petit cocorico évidemment, hein. Plus de 4 millions de fans maintenant sur la page VOA Afrique. Merci de votre fidélité et on continue la conversation. Le numéro de téléphone toujours le même, le 001 202 205 26 33, 001 202 205 26 33. Joselle Morissin, Michel Joseph qui seront derrière la vitre pour prendre vos appels. On va avoir nos intervenants habituels. Tout d'abord à mes côtés dans ce studio, on va saluer Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
On va saluer également au Bénin Élisée Oungpatine. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas et bonsoir à tous les amis auditeurs de la VOA Africa.
On va saluer à Dakar Amdine Sy qui est avec nous. On va parler évidemment avec lui de l'afro-basket. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous les auditeurs de VOA Africa.
Et le vacancier camerounais, on va saluer Jules Valentin Ngoué qui est à Douala. Bonsoir Jules Valentin.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Et il est de retour de l'autre côté de l'Atlantique, chez lui à Kinshasa, notre radio partenaire Top Congo FM, Thierry Kamundi. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Voilà, merci messieurs d'être avec nous. Évidemment, dans cette émission, on va revenir, je le disais, longuement hein, sur ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 dans la zone Afrique, puisque depuis quasiment une semaine, évidemment, il y a eu la troisième et la quatrième journée. On en sait un peu plus. Pour le moment, aucun pays n'est qualifié, contrairement à d'autres zones, hein, notamment la zone Asie ou la zone Amérique latine. Mais en tout cas, on y voit de plus en plus clair, notamment dans le groupe A, puisque la double confrontation Tunisie-RDC a fait mal au Léopard. Il y avait d'ores et déjà eu finalement cette défaite, évidemment, face aux Aigles de Carthage en Tunisie. Et puis à Kinshasa, à la maison, les Léopards qui ont tout gâché en deux minutes. Thierry Kamboudi, un match nul, deux buts partout. Les Congolais avaient ouvert le score en première mi-temps. Ils avaient doublé la mise, deux buts d'écart. Et finalement, ils n'ont pas su verrouiller puisque les Tunisiens, par deux fois, aux alentours de la 75e minute, coup sur coup, qui sont revenus au score. Et les Tunisiens qui sont premiers de ce groupe A avec 10 points. Ça va être dur hein, pour les Léopard, qu'est-ce qui s'est passé?
Écoutez, Nicolas, ce match nul a laissé des séquelles. Ce match nul est toujours perçu comme une défaite ici en République démocratique du Congo. D'autant plus que le Léopard était à 12 minutes du bonheur, à 12 minutes d'une qualification qui leur permettrait de repasser en tête de ce groupe A et donc de jouer à fond leur carte pour les deux dernières confrontations. Mais voilà, c'est le haut niveau, ça se joue sous des détails. Ils ont été déconcentrés en l'espace de 2 minutes, ils ont pris coup sur coup deux buts, d'autant plus qu'ils connaissaient la force de frappe de cet adversaire tunisien, qui était là par un observateur, qui a joué sans complète, qui a cru en ses chances jusqu'au bout. Donc, les Léopards ont surtout perdu leur capitaine, hein, le premier buteur de ce match en termes de bataille, était le moment M, qui a joué en faveur des aides de Carthage de la Tunisie. Florent Ibenge l'a reconnu, la défaite, le départ sur blessure, la sortie sur blessure de Chancel Bemba a fait très très mal à cette équipe qui a été déséquilibrée malgré la montée de Rémi Mouba qui n'a pas pu qualitativement remplacer l'emblématique Chancel Bemba. Bref, ça fait jouer sur un petit rien, sur ce détail, sur cette déconcentration, cette erreur de la défense de la République démocratique du Congo qui a pris ce coup de but et puis derrière les Tunisiens ont su bien gérer le reste du match. Pour le moment, le Léopard compte sur une victoire en Tunisie contre les Libyens et espère une défaite des Tunisiens à Conakry, ce qui n'est pas évident. Donc, en clair, les Léopards de la République démocratique du Congo n'ont plus leur destin.
Oui, évidemment, Thierry, puis on va quand même rappeler hein, que dans ce groupe A, la Guinée et la Libye sont déjà éliminées. Alors évidemment, hein, on peut espérer du côté de Kinshasa, mais on voit mal les Tunisiens gâcher un si bel avantage. On va à présent parler du groupe B, évidemment. Là, c'est intéressant, puisque le mondialiste algérien de 2014, qui nous avait fait rêver au Brésil, évidemment, avec ce fameux match contre l'Allemagne. Et bien l'Algérie, KO debout, un seul petit point et deux défaites là encore lors de la double confrontation avec la Zambie, qu'il a même emporté 1-0 à Constantine. Évidemment, Jules Valentin Gouet, les Fenech n'y sont plus, avec un nouvel sélectionneur, avec des joueurs qui ne répondent plus, à l'appel. Finalement, dans ce groupe, on va voir s'envoler le Nigeria qui a 10 points et les surprenants Chipolo Polo qui sont deuxième. Mais dans ce groupe B, c'est incroyable, hein, puisque finalement, Camerounais et Algériens qui vont dire adieu à tout espoir finalement du Mondial 2018. Hein.
Franchement, ça c'est le groupe le plus explosif déjà de par les protagonistes et pour peut-être bien l'illustrer, nous avons la trois des quatre derniers champions d'Afrique depuis 2012 et nous avons les trois plus grandes représentations de l'Afrique en Coupe du Monde et chacun a au moins joué un huitième de finale. Donc, dans cette poule, le Nigeria s'est très bien préparé et s'était échaudé par une défaite à domicile contre l'Afrique du Sud aux éliminatoires de la CAN. Il a rappelé les anciens qui ont joué leur rôle à fond et ont amené l'équipe à faire un parcours parfait, surtout en début de compétition, donc, alors que les autres étaient encore dans des errements d'un certain âge. Donc ici, le Nigeria mériterait réellement sa qualification. Pour le Cameroun et l'Algérie, et ces deux pays doivent d'abord penser leurs blessures intérieures.
Merci beaucoup Jules Valentin Gouy. On va à présent parler avec vous Yacouba Ouédraogo du groupe C, évidemment un groupe intéressant puisqu'on voyait évidemment les éléphants ivoiriens faire la course en tête dans ce groupe C et puis finalement patatrac, une défaite incroyable à la maison à Boaké face à des Panthères qui n'ont pas démérité, ils étaient réduits à 10 pendant toute la seconde période, une défaite de 2-1, les joueurs de Marc Wilmots se mettent en danger, hein.
Oui, c'est la suite logique, hein, de ce qui se passait depuis l'arrivée de cet entraîneur. On se rappelle encore de ces 5-0 qu'il a pris face aux Pays-Bas, 3-2 contre la Guinée qu'on a pris à Boaké dans ce même stade. Mm-hmm. Avec cette victoire éclair, je vais dire comme ça, au Gabon, on s'est dit que peut-être Marc Wilmots a retrouvé ses marques. Mais finalement, on se rend compte qu'en réalité, la victoire du Gabon, peut-être, hein, moi je me dis, c'est un excès de confiance que les éléphants ont eu face à cette équipe du Gabon au retour, parce qu'ils se disaient certainement le Gabon était pratiquement hors course et donc le Gabon va jouer juste au football. Eux, les éléphants, ils avaient toute la latitude, hein, de marquer un but à n'importe quel moment des 90 minutes. Malheureusement, pour eux, ils ont été surpris à deux reprises en 30 minutes maxi comme ça. Et donc, c'était difficile de se remettre. Ils ont pris panique et puis... Voilà, et c'est vrai, même si du côté d'Abidjan, les supporters commencent à dire, bon, peut-être que c'est ce stade de Boaké qui est maudit. Non, je ne crois pas à des trucs comme ça. Ce sont les éléphants qui n'ont pas su aborder cette rencontre et voilà, ils ont raté beaucoup d'occasions et donc...
Et oui, les éléphants en plus qui finalement voient revenir à grands pas les lions de l'Atlas, hein, les Marocains, puisque les Marocains ont infligé un 6-0 aux Maliens lors du match aller, match retour à un 0-0 solide finalement à Bamako et le match du 6 novembre, hein, ça va être la finale du groupe finalement entre Marocains et Ivoiriens.
Tout à fait, ça sera la finale du groupe, mais je pense que les Ivoiriens ils ont actuellement le dos au mur, ils ont plus de pression que les Marocains qui reviennent petit à petit dans le sud l'échiquier du football africain et mondial. Et donc, je me dis qu'avec un entraîneur comme Hervé Renard, qui connaît très bien la Côte d'Ivoire, par contre, Marc Wilmots, il n'inspire pas trop confiance parce que je le trouve un peu surexcité sur le banc. On l'a vu au Gabon, lorsque les éléphants inscrivaient un but, bon, il courait plus que celui-même qui a marqué. Je pense qu'un entraîneur, il faut que ça va garder son sang-froid à cet moment donné, analyser tactiquement la rencontre et puis procéder à des changements s'il y a lieu de les faire ou pas. Et avoir vraiment un œil d'observateur plutôt que de participer à l'euphorie et puis bon voilà, et embarquer toute son équipe dans l'erreur.
Et puis en cas de déroute, on reparlera évidemment, hein, du côté des Ivoiriens de la nécessité ou non de recruter un entraîneur local évidemment,
tout à fait.
Contre tous ces entraîneurs européens qui viennent chèrement payer. Alors on a l'exemple évidemment d'Hervé Renard qui a réussi, mais c'est peut-être le seul justement sur les dix dernières années. Donc on ouvrira certainement le débat du côté d'Abidjan en cas de défaite. Du côté du Mali évidemment, on est presque éliminé, on a deux petits points même si mathématiquement c'est pas fait. Et la nouvelle est venue cette semaine de la démission finalement d'Alain Giresse qui démissionne. Son contrat qui courait jusqu'au 30 novembre 2017, eh bien il jette l'éponge. Il dit craindre pour sa sécurité. On va écouter la réaction évidemment du président de la FEMAFOOT, Boubacar Baba Diarra.
Le sélectionneur a été très bref dans sa lettre. Il m'a fait part de certains soucis relatifs vraiment d'abord à sa sécurité. Et ensuite, il m'a dit que psychologiquement, mentalement, il n'était plus prêt à poursuivre la mission d'entraîner les Aigles du Mali. Il souhaiterait vraiment mettre fin à son contrat. Dès hier, j'ai donné mon accord compte tenu de son argumentaire. Il a appuyé cette démarche par une lettre officielle de démission. Il a demandé à bénéficier de 2 jours de congé pour retourner en France, aller se décompresser un peu, venir à Bamako, et faire sa valise et dire officiellement au revoir au monde du football.
Voilà, Boubacar Baba Diarra qui parle d'Alain Giresse. Élisée Oumpatine, une nouvelle aventure africaine, sans titre pour Alain Giresse, qui n'était pas nouveau au Mali. Il avait également entraîné au Gabon récemment et au Sénégal. Pourquoi, selon vous, ce départ précipité face à ce qui est fait de toute façon un échec pour Alain Giresse avec cette équipe du Mali pour les éliminatoires du Mondial?
Oui, compte tenu des résultats enregistrés ces derniers temps, il faut dire depuis la CAN qui a eu du côté du Gabon, eh bien, c'est une contre-performance énorme qu'a connu le Mali durant les 2 dernières compétitions africaines, puisque vous le savez bien, le Mali qui a terminé à 2 fois à la 3e place, et bizarrement, lors de la dernière édition, le Mali a été éliminé déjà dès le premier tour. Déjà, c'est une contre-performance. Et puis, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, le Mali n'a pas su bien démarrer cette campagne, déjà une défaite contre la Côte d'Ivoire, résultat nul à domicile contre le Gabon, et puis cette déroute est complètement humiliée du côté de Rabat face à ces Marocains. Le plus lourd score qu'a enregistré cette sélection malienne devant une équipe du Maghreb, donc c'est dire que c'est plus que une désolation. Donc Giresse a compris le temps de tourner la page, puisque les supporters ont déjà réclamé sa démission depuis fort longtemps et il n'a pas voulu démissionner, il a cru en son projet, mais voilà, et les résultats sur le terrain sont là, il ne peut plus qualifier le Mali pour la Coupe du Monde et les prochains jours seront donc difficiles pour lui, et il a préféré jeter l'éponge. C'est une très bonne chose, encore que c'est un monsieur qui connaît bien sûr le football africain, espérons qu'il pourra bientôt répondre.
Allez, on ouvre le débat, au cœur du débat maintenant à présent dans le groupe D, puisqu'on va parler de ces incroyables requins bleus du Cap-Vert finalement, qui ont réussi à battre 2 fois finalement l'Afrique du Sud. Il se retrouve premier ex aequo avec le Burkina Faso, 6 points. 3e le Sénégal après le nouveau match nul obtenu à Ouagadougou, 5 points. Et puis l'Afrique du Sud évidemment qui est là 3e, évidemment 4e pardon, avec 3 points. Oui, mais voilà, la semaine dernière, la FIFA qui a sorti, certains diront un tacle, certains diront finalement un coup de baguette magique, la FIFA qui va faire rejouer le fameux match qui a fait couler tant d'encre entre Dakar et Pretoria, le fameux match de novembre 2016 et ce pénalty imaginaire qui avait été accordé au Bafana. Bafana, on va retrouver Amdine Si à Dakar. Amédine, qu'est-ce qu'on dit du côté des Lions de la Teranga, ce match qui va être rejoué et ce match du coup qui va peut-être amener 3 points à des Sénégalais qui sont pour le moment en ballottage défavorable.
Tout à fait, Nicolas Pignon. La décision de la FIFA est très de compétition pour les Sénégalais parce qu'il y avait une fuite après le nul de fait concédé par les Lions à Ouagadougou, parce que ce nul est considéré comme une défaite par les Sénégalais qui réclament non seulement la tête de l'entraîneur Aliou Cissé, mais également le départ de Cédéro. Le Sénégal était très remonté parce que le Sénégal a gagné depuis la première journée la fameuse victoire contre les requins bleus du Cap-Vert lors de la première journée de 2-0. Ensuite, ce n'est pas plus de contre-performance 48 heures après qu'il y a eu cette décision. Il faut le dire, au niveau du Sénégal, on s'est étonné parce que l'information est tombée depuis quand même le début de la journée, mais les gens n'osaient même pas l'écrire. On attendait la confirmation parce qu'on ne croyait pas à soi, parce qu'on se rappelle en 86 lorsque le Sénégal a été éliminé à un match de poule parce que le Sénégal était leader lors de la dernière journée. Le Sénégal avait considéré une défaite face à la Côte d'Ivoire et une information comme ça était tombée pour faire baisser la tension. On pensait que ça allait être la chose, mais cette fois-ci, non, la FIFA a bel et bien décidé que ce match va être rejoué. Donc maintenant, le Sénégal va se concentrer. C'est un cadeau, mais là, il faut se dire là. Essayer de battre les Bafana Bafana d'Afrique du Sud pour revenir quand même échouer cette première place au salon du Burkina Faso. En tout cas, c'est notre ministre Nicolas Hulot.
Ah oui, alors on va évidemment dans quelques instants voir la réaction du côté de Ouagadougou. On va prendre un premier auditeur, il s'appelle Steve Boko qui nous appelle. Bonsoir Steve. Alors on a changé, on me dit qu'on a Christian Djarabé de Tchad. Bonsoir Christian. Voilà, on va rester la ligne, sinon on va dire au revoir à Christian. Christian, est-ce que vous nous entendez? Alors Christian, vous, quel est votre sentiment sur ce match qui va être rejoué?
Oui, par rapport à ça, il faut, comme la FIFA avait déjà décidé pour que le match soit rejoué. Normalement, on ne devait pas rejouer le match. On devait seulement voir les écrans qui peuvent ramener le jeu. Mais s'il n'y a pas les écrans, la FIFA avait déjà décidé. Donc, on ne peut rien faire. On doit rejouer seulement le match.
Eh bien écoutez, merci beaucoup Christian de nous avoir appelé. On va poser la question finalement au Burkinabé de cette émission, Yacouba Ouédraogo. Alors, on parle beaucoup de Fatma Samoura hein, du côté du Burkina. Qu'est-ce qu'on dit du côté des étalons sur cette décision de rejouer le match qui donne, il faut le dire, une opportunité unique aux Sénégalais de repasser devant?
Écoutez, c'est un sentiment légitime hein, du côté de Ouagadougou et partout d'ailleurs dans le Burkina, que les gens pensent qu'on est en train de vouloir offrir et une seconde chance hein, au Sénégal qui était quand même presque deux au mur après cette double confrontation et soldée par deux matchs nuls. Et donc du côté de Ouagadougou, c'est un sentiment d'injustice qui règne. Et vous avez dit tout à l'heure surtout que la RG de la FIFA est sénégalaise. On se dit bon voilà, la FIFA est en train de choisir l'équipe qui va représenter l'Afrique hein, dans le groupe D au Mondial de Russie 2018. Mais moi, je sens verser hein, dans ce débat, bon, dans cette polémique qui ne prendra jamais fin. Je reviens sur cette double confrontation Burkina-Sénégal. C'est vrai, quand on dit que, et Amdine s'il le soulevait tout à l'heure, et qu'à Dakar, c'est la grande frustration, c'est l'échec, mais il faudrait aussi que les Sénégalais reviennent à l'évidence, parce que c'est vrai, le Burkina n'est pas une grande équipe de football à travers des noms de joueurs, mais c'est quand même une grande équipe qui évolue ensemble depuis 2007. Et Aliou Cissé était sur le terrain du côté de Dakar lorsque cette même équipe, hein, à 7 ou 6 joueurs près, a affronté le Sénégal et a pris 5-0. Devant le Sénégal, ils étaient encore juniors pratiquement. Ils ont été appelés en équipe nationale. Et donc, le Burkina aussi a été troisième à la dernière CAN. Donc, il faudrait qu'on essaie quand même de relativiser hein, lorsqu'on parle de contre-performance des Lions. Parce que les Lions, jusque-là, c'est des individualités. C'est pas une grande équipe. Mais Nicolas, pour revenir sur cette décision, moi, la question que je me pose, c'est d'abord, la CAF parle de manipulation de résultats d'un match. Manipulation au profit de qui? Dans la mesure où la CAF n'incrimine pas l'Afrique du Sud. Si l'Afrique du Sud était incriminée dans cette affaire, on dirait que voilà, c'est l'Afrique du Sud qui s'est entendue avec l'arbitre et donc il y a peut-être eu un sentiment de corruption à quelque part. Mais lorsqu'on dit que l'arbitre a manipulé le match en faveur d'une équipe qui n'est pas incriminée, ça pose problème. Et de deux, c'est le timing aussi de l'intervention de cette décision-là. Pourquoi pratiquement un an après pour rejouer un match? On se pose des questions.
On rappelle aussi que l'arbitre du match, hein, qui avait été d'abord suspendu 3 mois par la Confédération africaine de
tout
football,
à fait, tout est à fait,
maintenant
tout à fait,
suspendu.
Tout à fait. Et ce même arbitre d'ailleurs qui avait été suspendu en 2010, lorsque, en fait, pour un fait pareil hein, entre Al Ahly et Espérance de Tunis en son temps, en Ligue africaine des champions. Et donc je me dis que lier l'incompétence de l'arbitre à la manipulation des matchs, c'est des conséquences. Il y a encore la FIFA en train de créer un précédent qui sans doute va lui tomber dessus.
Alors on va prendre un autre auditeur. On me fait signe qu'on a en ligne Poutine, qui n'est pas russe, mais bonsoir.
Oui, bonsoir monsieur, bonsoir.
Alors vous, votre sentiment, rejouer le match Afrique du Sud-Sénégal, qu'en pensez-vous? Vous n'en pensez rien? Allô? Bon, notre auditeur, visiblement, essaiera de nous rappeler. On va continuer avec, évidemment, le tour de la question. On va poser la question à Jules Valentin Ngoué. Jules Valentin, scénario incroyable, évidemment, hein, pour les Sénégalais. Encore faut-il que les Sénégalais, d'une part, l'emportent, évidemment, face à l'Afrique du Sud. Et puis, il y a aussi, évidemment, hein, ces requins bleus qui sont trouble fête hein, dans ce groupe.
Oui, bien sûr. La vérité du terrain finira par sortir, mais il faut dire que là, on a ouvert la boîte de Pandore. C'est très dangereux. Et faire rejouer un match pour un fait de match qui, en fait, même si on annulait ce but, il restait encore un autre. Et finalement, là, on se dit que la main de Thierry Henry, la fameuse main de Thierry Henry,
où l'Irlande avait été passée par toutes les juridictions pour qu'on réjouisse le match, et elle était beaucoup plus flagrante et beaucoup plus déterminante pour la qualification.
Oui, c'est assez historique comme
le
décision.
Match n'a pas été réjoui, hein.
Oui, c'est assez...
Donc, je crois que là c'est, on a ouvert la boîte de Pandore et ça risque d'être particulièrement difficile à gérer dans la vie.
Ouais. Élisée Oumpatine, on va avancer un petit peu dans le groupe E, hein, le Congo Brazzaville définitivement éliminé, une gifle, hein, évidemment, par le Ghana, 5-1 à Brazzaville. Vous voyez plutôt l'Égypte y aller tranquillement à cette Coupe du Monde, ou vous pensez que les Black Stars vont réussir leur grand retour?
Oh, en tout cas, il reste